Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue ménage.
Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir aus bloß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Onde Femmes. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone 93.8. Et comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney où vous pouvez nous appeler. C'est tout simple, c'est le 4 50 40 51 41. Je répète, 4 50 40 51 41 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Et aujourd'hui, nous sommes nombreuses dans le studio, mais tout de suite en musique, nous vous indiquons où nous allons. L'année passée, au mois de juillet 1996, à l'appel des zapatistes au Chiapas, Mexique, avait lieu la première rencontre intercontinentale pour l'humanité contre le néolibéralisme. Anne Plattner, y était, elle est avec nous encore une fois aujourd'hui. Et puis Brigitte Brodmann n'y était pas, mais depuis lors, elle a beaucoup travaillé, elle sait très bien ce qui s'y passera lors de la deuxième rencontre intercontinentale pour l'humanité et le néolibéralisme. Qui aura lieu cet été en Espagne. Et Viviane et moi, eh bien, nous sommes très heureuses de les accueillir avec nous cet après-midi pour faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé durant cette année après cette première rencontre, qu'elle a été dans chaque pays, l'effet de la rencontre au Chiapas, comment s'est décidée cette nouvelle rencontre et comment elle s'est préparée. Et surtout ce qui s'est passé au Chiapas entre-temps, au Mexique entre-temps, qui risque d'influencer beaucoup cette deuxième rencontre. Bienvenue Anne, bienvenue Brigitte.
Alors effectivement, nous sommes ici pour parler plus particulièrement de cette deuxième rencontre pour l'humanité contre le néolibéralisme. Et qui dit deuxième rencontre dit bien entendu première. Il y avait eu une première rencontre l'année dernière au Mexique dans la forêt du Chiapas. Anne, rappelle-nous un peu qu'est-ce que ça a été ce moment.
Oui, alors c'est un moment qui nous paraît déjà lointain mais qui est en même temps très proche. Il suffit de réentendre quelques notes de musique et on est de nouveau là. Eh bien, on avait fait une émission en septembre pour raconter tout ce qui s'était passé pendant l'été. C'était donc une rencontre qui avait une sorte d'invitation qui était arrivée comme une surprise de la part des apatistes, qui convoquait au peuple du monde convoquer les peuples du monde entier à venir les rejoindre dans leur forêt. Donc c'était toute une aventure sur laquelle on a passablement écrit, sur laquelle on a beaucoup parlé. À cette occasion, donc, à peu près 3500 personnes s'étaient déplacées des 5 continents pour aller rejoindre les apatistes dans 5 lieux qu'ils avaient construits spécialement pour leurs hôtes, dans la forêt Lacandone et dans divers points du Chiapas. Et dans ces 5 lieux avaient eu lieu des forums de discussion contre le néolibéralisme, selon des thèmes comme l'économie, la politique, la culture, la situation des femmes, la situation des minorités. Voilà. Voilà, en gros, c'était ça la première rencontre.
Et alors, elle s'était terminée sur une double résolution, en quelque sorte.
Exactement, donc elle s'était terminée le dernier jour à La Realidad, qui est le lieu de base de l'armée zapatiste de Libération Nationale. Marcos avait surpris tout le monde et... Oui, surpris et enthousiasmé également les gens en leur demandant de donner suite à ces journées exceptionnelles. Il était clair que c'était pas en une dizaine de jours qu'on pouvait résoudre beaucoup de choses. Et il avait demandé, il avait suggéré, il avait proposé qu'une deuxième rencontre ait lieu en Europe cette année. Et bon, cette espèce de défi, demande a été relevée. Et cette deuxième rencontre qui a toujours été, l'idée a toujours été acceptée et même c'est une idée qui apparaissait un peu comme une évidence tant on avait commencé de réflexions qu'on n'avait pas pu mener à bien et tout le monde était bien conscient que les problèmes auxquels on s'était attaqué ne pouvaient pas trouver de résolution en quelques jours. Donc tout le monde a repris l'idée. Et toute l'année, il y a eu un certain travail qui a été effectué, dont on va vous parler aujourd'hui, pour que cette deuxième rencontre devienne réalité. Et elle va devenir réalité.
L'autre proposition, c'était, bon, on a parlé de la rencontre, la deuxième proposition, c'était de créer en quelque sorte un réseau. Un réseau mondial, intergalactique, parce qu'on ne va pas quand même s'arrêter à notre planète. Un réseau, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire un réseau par rapport à des organisations politiques telles qu'on les connaît?
Bon, l'idée du réseau qui a été lancée aussi au cours de cette deuxième déclaration de la Realidad, prononcée par Marcos, cette idée impressionnante, évidente et complètement folle, consiste à justement essayer de relier toutes les luttes séparées qui ont lieu dans le monde, ces luttes dont on a un petit peu pris conscience en les discutant lors de la première rencontre. L'idée du réseau, ce serait que toutes ces luttes ne se perdent pas dans leur coin et que tout d'abord on puisse en être informé. Et qu'on puisse donc cultiver une sorte de conscience commune de ce qui se passe à travers le monde et donc informer, quand on lutte, on informe soit les proches, soit les lointains et on essaye de se soutenir et on essaye d'échanger les expériences, de les analyser ensemble de les répercuter. L'idée du réseau est donc un petit peu celle d'un écho qu'on se donnerait, un écho critique et un écho de soutien. Bien entendu, c'est une idée, comme j'ai dit, qui est assez immense, assez folle, mais qui semble tout de même s'imposer dans la situation actuelle. Simplement, il faut qu'on lui donne forme. Et pendant cette année, on s'est rendu compte que c'était un projet qui était passablement difficile à réaliser pour toutes sortes de raisons. Et un des buts de cette deuxième rencontre, c'est vraiment d'attaquer cette question de réseau d'une manière concrète, de mettre l'accent sur ce problème qui, pour nous, est vraiment une priorité.
Parce que qui dit réseau dit justement pas une organisation centralisée, comme on a pu les connaître, avec les partis ou les internationales, où finalement, un seul thème de lutte pouvait, ou quelques thèmes de lutte étaient repris par tout le monde, la solidarité se faisait en venant du haut, tandis que là, l'idée, c'est plutôt de mettre ensemble des gens qui luttent, mais sans nécessairement direction commune.
Oui, alors ça, c'est tout à fait clair et ça peut paraître complètement utopique à certains habitués. Il s'agit de trouver une forme d'organisation sans centre décisionnaire, sans hiérarchie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette ensemble, à partir d'une base et d'une manière horizontale, toutes sortes d'énergies. Il ne s'agit certainement pas de répéter ce qui a été fait par les internationales, les nombreuses internationales qui nous ont précédées, même si on peut voir dans l'idée de l'international un tout petit peu l'ancêtre du réseau. Mais il s'agit de ne pas répéter les erreurs autoritaires et de ne pas répéter une forme d'organisation qui finit par se figer parce qu'elle est séparée de la base. Mmh. Donc c'est ça un petit peu le challenge de cette proposition, c'est de se lier sans se figer.
Et Anne, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce réseau, c'est que sont tout à coup reliés dans leur lutte les pays du Nord et les pays du Sud. Ça aussi, c'est une nouveauté. Il n'y a pas le Sud qui a une certaine lutte contre les pays du Nord. Il y a des points communs, et entre autres, c'est la fameuse rencontre contre le néolibéralisme qui concerne tout le monde.
Oui, et ça, c'est un des points remarquables des apatistes, c'est qu'ils ont été les premiers à montrer à quel point les luttes du Sud avaient des parallèles avec les luttes du Nord, toute proportion gardée, et à mettre le doigt sur ce fait-là, qu'actuellement, dans ce qui se fait dans le monde depuis un certain nombre d'années, avec le néolibéralisme, les problèmes ont des points communs beaucoup plus importants qu'on aurait pu l'imaginer. Et on s'est bien rendu compte à la première rencontre que le discours qu'on pouvait tenir au Nord trouvait des échos au Sud et vice-versa. Donc le monde est un grand monde et n'est plus un rassemblement de petits mondes.
Soledad sobre ruina, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras aulas que tocan el cielo. Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo,
y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, 5 siglos igual.
Mercedes Sosa dans Remue Ménage, onde femme, Radio Zone 93.8. Mercedes Sosa, femme argentine qui nous accompagne cet après-midi, alors que nous évoquons la convocation de la deuxième rencontre intercontinentale pour l'humanité contre le néolibéralisme, qui est un prolongement de la première rencontre qui avait eu lieu l'été dernier au Chiapas. Alors, peut-être un peu creuser ce qui s'est passé durant cette année, très concrètement.
Oui, parce que j'imagine que ce réseau dont tu as parlé, Anne, il est en train de se mettre en place de façon peut-être très chaotique, tu nous l'expliqueras, Brigitte, mais l'expression en partie de cette mise en place de ce réseau, c'est justement toutes les activités qui ont eu lieu cette année pour organiser cette deuxième rencontre. Alors déjà, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que pour l'instant, les gens qui tournent autour de cette idée, ce sont surtout les différents comités dans le monde de soutien au mouvement zapatiste, ou est-ce que ce sont aussi des expressions de lutte plus locales ?
C'est essentiellement des comités de soutien qui ont continué le travail. Bon, je pense que c'est aussi lié au fait qu'après la rencontre au Chiapas, on s'est un peu replié sur nos continents, c'est-à-dire on a continué le travail plutôt en Europe. Et puis c'est en fait les comités de soutien qui ont convoqué à une réunion à Zurich à la fin de l'année dernière, donc du 20 au 22 décembre. Alors, je pense par la force des choses, c'était essentiellement des comités zapatistes.
Une réunion européenne. Là.
Une réunion européenne où on a un petit peu décidé de la suite à donner après cet appel à faire une deuxième rencontre. Et puis, après 2 jours de discussions parfois très, très différentes, difficiles, dures, on a décidé que cette deuxième rencontre allait avoir lieu cet été en Espagne. Ça, c'était la décision qu'on a prise avec beaucoup, beaucoup de difficultés parce que c'est un réseau, je le mets peut-être encore entre guillemets ce mot, c'est un réseau qui est composé de gens, mais vraiment très, très, très différents. Il y a d'abord la différence entre le nord et le sud de l'Europe qui se sent très, très fortement. Tant qu'il y a la position plutôt analytique, qui veut aller au fond des choses, qui est plutôt la tendance du nord, et puis une tendance plus, on vit un petit peu les choses comme elles viennent, qui est plutôt la tendance du sud, l'Espagne, l'Italie surtout. Et puis tout ça, ça donne parfois lieu à des affrontements assez, assez importants. Mais néanmoins, donc à Zurich, après 2 jours de discussions parfois mais épiques, on a décidé de faire cette deuxième réunion, cette deuxième rencontre. Et puis, à la suite de ça, il y a eu une petite réunion à Barcelone où moi-même, je n'y étais pas. On a eu quelques nouvelles, mais pas tellement. Et tout le monde a décidé de se retrouver à Prague. Et je crois que ça, c'était le moment le plus important de cette année par rapport à la préparation de la deuxième rencontre.
Alors de nouveau, cette réunion de Prague, réunion européenne, combien de personnes sont venues ?
difficile à dire. Il y en a qui disent on était une centaine, il y en a qui disent non, on était moins. Alors déjà, on a décidé d'aller à Prague parce qu'on s'est dit, nous, on est un mouvement européen. En fait, on s'appelle comme ça, mais en fait, c'est l'Europe occidentale. À l'Est, on a aucun contact. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller à Prague. Mais quand on est arrivé, il a d'abord fallu résoudre le problème où on dormait, comment on mangeait. Enfin bref, rien n'a été préparé. Et puis bon, le centre où on était, c'était assez épique parce que c'était un centre, donc, un centre de loisirs, comme on l'appellerait ça ici, dans la ville de Prague, mais à moitié en ruine. Il n'avait plus reçu de subvention depuis des mois, je crois. En tout cas, le seul endroit qui fonctionnait, c'était la cafétéria, qui était vraiment la cafétéria cool, comme ça, comme on ne va plus. Ouais. Moi, je me rappelle avoir vu ça dans les années 70. Et puis, c'était le seul endroit chauffé. Il neigeait dehors. Enfin, bref, c'était assez épique. On a dû s'organiser pour trouver des endroits où on pouvait discuter. Et malgré tout ça, on a réussi à faire des discussions en groupe de travail. On a, je pense, mis sur pied quand même, peut-être entériné plutôt ce que les groupes espagnols avaient déjà mis sur pied comme préparation de cette deuxième rencontre. Mais pour moi, Prague, c'était aussi le moment où finalement je me suis dit, non, quand même, ce mouvement, il vit. Parce que justement, on est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, c'était les grosses engueulades, qui c'est qui n'a pas fait son travail? Et puis finalement, tout s'est bien passé quand même. Je veux dire, c'est ça, on passe par des moments de bas, de haut, et puis ça donne quand même finalement un sentiment d'être ensemble.
Mais en même temps, disons, l'envie, c'est de faire venir ensemble des gens qui sont dans les luttes. Alors ici, ce sont surtout les comités de défense de soutien aux zapatistes. Quel lien ces comités, chaque comité dans son coin, peut faire avec des luttes locales pour justement donner cette dimension globalisante à une grève, à une occupation, à un squat, à un mouvement de chômeurs, etc.
Justement, tout ça, c'est la grande préoccupation et je peux pas, tout à fait franchement, je peux pas dire que cette année était un grand succès de ce côté-là. Il faut pas oublier que si on parle de Genève, que nous sommes très très peu nombreux à être réguliers dans ce petit comité et ça, on le cache pas du tout. On a beau nous voir apparaître ici ou là lors de certaines manifestations avec notre brave drapeau, on est tout de même peu nombreux à assumer le travail. Les nouvelles du Mexique ont été très alarmantes toute l'année. Il a fallu jouer des coudes pour récolter beaucoup d'argent, pour simplement envoyer de l'argent pour que les gens ne crèvent pas de faim et pour informer. Il y a eu des créations de nouveaux comités. Il y a eu toutes sortes, il y a toute une, on ne peut pas dire qu'on est régressé parce qu'il y a, par exemple en Suisse romande, deux nouveaux comités qui se sont créés, un à Lausanne et un à Beaune. On a été très très occupés à essayer de s'entendre, de communiquer avec les comités européens, mais en même temps on a fait sans cesse des efforts pour étendre notre action, pour essayer de s'élargir en envoyant des lettres, en essayant de prendre des contacts avec toutes les organisations plus officielles sur place, les partis, les syndicats. On leur a déjà, dès l'automne, envoyé une information sur l'idée du réseau, en leur demandant si ça les intéressait. Et il y a eu pratiquement aucune réponse à ceci. Par rapport à la deuxième rencontre, on a continué, on a envoyé rien qu'à Genève à peu près 200 lettres d'explication et d'invitation à des groupes constitués. Mais il faut dire qu'actuellement, la réponse est encore faible. On sent qu'on bénéficie de sympathie. Il n'y a pas de doute, mais pour nous, c'est toujours un peu un sujet d'interrogation et même un peu de tristesse ou d'exaspération. Je ne sais pas si on ne passe pas encore pour des gens sérieux, mais on a peu de réponses des organisés officiels. Donc c'est un petit peu à nous maintenant de montrer que si on n'est pas gros, on tient bon et que la porte est tout à fait ouverte. On a fait quelques apparitions, il y a eu deux ou trois manifestations qui nous ont paru intéressantes. La marche contre le chômage notamment. Cet automne, il y a eu des manifestations contre le travail de nuit. Toutes ces choses petites, je préfère dire ça plutôt que petites choses, qui regroupent des gens non organisés ou assez peu organisés, qui font des manifestations avec, qui déploient une certaine imagination, mais qui évidemment peut-être ne touchent pas encore assez de monde. De toute manière, on est aux côtés de ces gens-là, et on pense qu'avec ces gens-là, on va pouvoir progressivement s'élargir. Mais la porte reste, je le répète ici, totalement ouverte aux gens de tous les partis, tous ceux qui finalement savent ou ont une expérience politique et sont d'accord aussi de la mettre en question, bien sûr, seraient accueillis à bras ouverts.
Mais d'un autre côté, c'est très symptomatique parce que, à la limite, ça rassemble les inorganisés. Mais on voit aussi que de plus en plus, les luttes sociales sont le fait aussi, elles partent souvent des inorganisés. Les syndicats officiels rattrapent souvent des luttes en cours, mais qui partent. On l'a vu en France avec les infirmières qui ont refusé de se mettre sous une bannière syndicale ou de différentes grèves qui se passent. Il y a cette espèce de contradiction. C'est vrai que les organisations en place ont de la peine à lancer des luttes, mais les inorganisés ont la peine aussi à continuer le mouvement, peut-être.
Oui, mais c'est bien ce qui nous rend perplexes. Moi, je trouve ça très intéressant, d'ailleurs. Et puis, ça ne nous décourage pas du tout, en fait. Mais on a l'impression, un petit peu actuellement, que les organisés, les expérimentés, sont d'abord peu nombreux en Suisse et à Genève et qui sont complètement mobilisés par leur lutte et leur façon de faire. Et enfin, je ne leur jette pas du tout la pierre parce que j'admire au contraire certaines de leurs réalisations, leur ténacité. Mais je trouve un petit peu dommage que le dialogue ait autant de peine à s'établir avec ces gens-là parce que je pense que tout le monde aurait à y gagner, à communiquer davantage. Et je ne suis pas du tout étonnée qu'en une année, on n'ait pas réussi à établir ces liens. Mais je pense qu'on ne pourra pas y couper, c'est incontournable. Il faut que ces forces-là se rejoignent. Il faut qu'on trouve une façon de parler, des espaces communs. Et je crois que tout le monde aurait à y gagner. Et qu'on va devoir passer par là. Maintenant, il faut trouver les moyens.
Et puis, si je regarde sur le plan européen, il y a quand même, au niveau des différents comités zapatistes, il y a en gros, il y a deux partis. Hein, d'un côté, il y a des jeunes, des très jeunes, qui sont effectivement, c'est leur première expérience avec un mouvement politique. La deuxième partie se compose en fait de gens qui ont une grande expérience. C'est souvent des gens entre 40 et 50 ans qui ont lutté dans les comités de l'État espagnol. J'ai rencontré des gens qui venaient de groupes chrétiens, qui sont plutôt axés dans cette direction. Et puis, il y a des gens qui viennent du Parti communiste espagnol. Enfin, bref, qui ont une très, très grande expérience politique, qui ont participé à plein de luttes et qui, quand même, ont besoin de trouver encore autre chose. Donc, je pense qu'il y a un brassage là, à ce niveau-là qui est assez fertile, je trouve.
La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote.
pueden caminar por causa de sus bigotes. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote. Y no pueden caminar por causa de sus bigotes.
La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Woo-hoo-hoo!